Radio Esperanza, ça y est, c'est le premier soir, c'est parti, nous sommes le jeudi 4 août, le festival ouvre ses portes demain. Le camping a déjà ouvert ses portes et apparemment les portes sont tellement ouvertes qu'il y a une grosse file devant. Eh bien oui, c'est parti. Les premiers festivaliers sont de retour à Floref. Et il n'y a pas que des festivaliers sur Floref, puisque vous l'avez peut-être compris tout à l'heure, la thématique d'Esperanza cette année, c'est chassons les vrais monstres, ce ne sont pas les réfugiés et le danger, mais le TTIP. Et donc, il y a des réfugiés sur le site de la restez sur vos gardes, gardez vos sacs près de vous, fermez vos vestes, gardez votre portefeuille au plus proche de votre peau. Il y a des réfugiés à Esperanza. Et là, merci, c'est là que vous reprenez parce que là, j'ai plus rien à dire.
Non, mais autour de la table d'abord pour animer cette heure d'émission. Donc, Aurore.
Salut Lisette.
Ça va?
Écoute, plutôt pas mal, ça va être bien là, cette émission intéressante, super intéressante.
Bah oui, c'est bien qu'il y a des réfugiés, comme ça on a des thématiques d'émission au moins.
Voilà, c'est ça.
Voilà, ça fait un peu de culture pour tout le monde. Betty, à ta gauche, bonjour Betty.
Bonjour Lisette.
Ça va, donc toi, c'est ta première Radio Esperanza?
Ouais, effectivement.
Et ça va?
Ouais, ça va, je viens du Congo et il y aura pas mal de choses que je vais découvrir et ça va m'aider aussi dans mon expérience car on a lancé un programme similaire et on est là pour le stage avec mon ami Calvin que vous allez aussi découvrir un peu
je te laisse l'introduire.
Et salut Calvin.
Bonjour les amis, je suis Calvin Batumike. Je suis plus connu pour la vidéo, mais là, je suis aussi pour prendre de l'expérience, vivre l'ambiance d'Esperanza et partager avec les amis tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, quoi.
Ok, et donc en face de toi, qui c'est?
En face de moi, c'est Camille.
Bonsoir Kelvin, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Camille.
Eh ben, ce soir, on va reparler un petit peu de tout ça, ces questions des réfugiés. Ça fait un peu des semaines, des mois qu'on en parle, plus ou moins bien d'ailleurs, parce que parfois on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Cette année, c'est une des deux thématiques du Festival Esperanza. Il y a la question des réfugiés et la question d'un traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Et on nous présente souvent les réfugiés comme étant la vraie menace. Alors que finalement, est-ce qu'il faut en avoir si peur? On va parler de tout ça pendant une petite heure.
Et bah bon, pour illustrer tout ça, bah, y a quand même pas mal de thématiques qu'on avait nous-mêmes envie de pouvoir développer ce soir. On aura des sons également. Et ce qui est intéressant aussi autour de la table, donc on a des Belges, on a des Français, on a des Congolais. Et donc les choses sont différentes d'un pays à l'autre, Lisette.
Complètement, et c'est vrai que moi, pour avoir suivi, donc je suis française, habitant en France, j'ai suivi pas mal l'actualité européenne et internationale depuis longtemps maintenant. Et c'est vrai que sur cette thématique, question, je ne sais pas comment l'appeler, des personnes qui se réfugient, qui migrent, alors moi je ne me sens pas très à l'aise justement avec ces mots, hein, comme si une personne devait être réduite qu'à son statut social du moment. Et ça, c'est quelque chose qui me pose relativement problème. Hein. Les gens ne sont plus un homme ou une femme, un quadra ou un intellectuel ou un pensionné ou un voyageur. Ils sont réfugiés ou migrants, alors que tant d'autres, eux, sont des expatriés. Et on voit bien que l'image qui en ressort n'est absolument pas la même et les symboles qu'on peut y mettre à côté. Ce que j'ai vu, moi, depuis la France, ces derniers mois, où effectivement, il y a eu... de toute façon, il y a des guerres, il y a des accaparements de terres, il y a du néocolonialisme, il y a du pillage de ressources, il y a des grosses guerres. Et donc, forcément, à un moment donné, on a envie d'essayer de sauver sa peau, ce qui paraît relativement légitime. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, ce que j'avais l'impression de voir via les réseaux sociaux, en partie via les médias, c'était que, en Belgique, quand même particulièrement par rapport aux autres pays européens, qui reste un petit pays, il y avait quand même donc des grosses questions et des grosses disparités dans ce que les gens peuvent penser de la question des réfugiés et des personnes qui migrent. Mais Mais il y avait quand même des grosses solidarités qui se créaient, des grosses manifestations. Il y a eu tout un tas d'actions qui se sont mises en place. Et on en rencontrera demain dans Possible or Not Possible, parce que sur le village des Possibles, dans Esperanza, il y a des nouveaux collectifs, des nouvelles associations qui agissent au quotidien, que ce soit dans l'accueil avec et pour les réfugiés, que ce soit sur les questions d'intégration, de lutte contre les préjugés, l'accès aux droits, à l'éducation ou juste aux besoins de première nécessité, hein, l'alimentation, se vêtir et s'abriter. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je me posais la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en Belgique, quel est le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment il y ait une grosse différentes actions et différentes solidarités qui se créent, alors que de l'autre côté, je pose vraiment ça comme ça, on a eu effectivement un attentat il y a quelques mois qui peut amener certaines personnes au repli quand d'autres vont s'ouvrir.
Alors on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en Belgique. Peut-être d'abord on peut commencer avec quelques chiffres simplement pour bien savoir de quoi on parle. En Belgique en 2015, on a eu 39 000 personnes qui ont déposé une demande d'asile. C'est un chiffre qui est important, c'est 3 fois plus que les années précédentes. C'est pas un record non plus. Dans les années 2000, quand il y a eu des crises dans les Balkans, il y en avait beaucoup plus. Ces 39 000 personnes, à l'échelle de la Belgique, ça ne représente pas grand-chose. Ça représente moins de 10 personnes pour 1000 habitants. Si on compare avec d'autres pays, au Liban, par exemple, on a 232 réfugiés pour 1000 habitants, pour 1000 Libanais. En Jordanie, il y en a 87. Au Tchad, il y en a 34. En Suède, il y en a 15. En Belgique, c'est en une petite dizaine. Donc ça reste quand même assez modeste. Depuis l'arrivée des réfugiés, il y a eu beaucoup de problèmes avec la question de l'accueil. Ça a donné lieu à pas mal de solidarité autour à Bruxelles notamment, dans d'autres villages aussi, on en reparlera. Il y a eu pas mal de choses autour de Namur, à Belgrade. Et à Bruxelles, c'était surtout autour du parc Maximilien. Le parc Maximilien, c'est ce petit parc qui est dans la région, pas très loin de la gare du Nord. C'est situé juste en face de l'Office national des étrangers, qui est chargé de remplir les demandes d'accueil, les demandes d'asile de la part de toutes ces personnes qui sont arrivées ici. Au parc Maximilien, on a eu au maximum entre 800 et 1000 personnes qui dormaient là-bas, sous tente. C'était l'hiver, c'était pas des conditions très faciles, mais ils ont réussi à s'en sortir grâce à la solidarité des Belges du quartier qui ont bien pris le relais là où les autorités ont été défaillantes.
Demain, Déborah, tu animes un débat un peu lié à cette question-là, aussi au parcours migratoire, en fait, il me semble, l'après-midi.
Ah oui, ce sera le soir, donc c'est à 19h30 dans les retours sur les débats du village. Ce sera avec Fatima Ben Omar, que tu connais.
Que je connais, on a milité ensemble dans un collectif qui s'appelle Jeudi Noir, qui militait et qui milite toujours contre le mal logement à Paris.
Et sinon, moi, j'avais peut-être quand tu demandais pourquoi est-ce qu'il y avait une telle solidarité qui s'était présentée face aux réfugiés migrants en Belgique. Alors moi, je me pose la question et là, je me retourne vers mes collègues journalistes belges aussi. Moi, je me posais la question de savoir, on a un gouvernement de droite, ouvertement de droite, qui est quand même dirigé par la NVA, donc le mouvement nationaliste, le parti national. Le parti nationaliste flamand, qui est pas xénophobe, hein, on peut pas dire du mal, hein, mais hein, qui est quand même un peu, enfin qui n'aime pas, hein, oui, enfin on peut le dire clairement, qui est quand même bien raciste, quoi, quand même, et qui a quand même lancé des phrases comme ça. Au petit bonheur la chance, comme ça, oh, une phrase perdue, qui ont franchement heurté l'opinion publique. Et je me demande s'il n'y a pas ça aussi, s'il n'y a pas un effet. On a un gouvernement de droite ouvertement raciste. Est-ce que, est-ce qu'on n'a pas un retour de solidarité et de se dire, mais nous, Belges, nous ne sommes pas ce gouvernement, nous ne sommes pas l'image de ce gouvernement. Et donc, nous, on agit parce que notre gouvernement n'agira pas. Donc, enfin voilà, c'est une question que je me pose, de me dire que c'est peut-être pour ça que, après, peut-être que le Belge est naturellement solidaire et accueillant et ou pas.
Je sais pas si c'est ça, mais ça serait dommage d'avoir besoin des propos difficiles d'un gouvernement pour voir toutes les solidarités. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu des centaines de personnes au final qui se sont mobilisées. Bon, il fallait pas forcément en passer par là,
mais
le résultat était à la hauteur.
C'est peut-être ça peut être une réaction aussi au fait de l'inertie d'un gouvernement face à la détresse de ces gens qui arrivent en Belgique. Si le gouvernement bouge pas, nous on va bouger quoi. Enfin moi clairement c'est comme ça. Enfin j'ai vu. Une fois qu'on voit les images, qu'on te dit, il y a des gens qui sont là dans le besoin, et c'était inhumain, quoi. Ce qu'ils vivaient là était. Ouais,
mais
était
là, je te répondrai. Excuse-moi, excuse-moi, Aurore. Vas-y. Non, vas-y.
Ça devrait pas expliquer peut-être la non-réaction des Français qui, eux aussi, ont dû faire face à des réactions politiques qui n'étaient pas toujours appropriées. Dunkerque, Calais, enfin, c'était.
Alors après, moi, je vais pas parler pour les Français parce que j'en suis qu'une seule, d'abord, nous, jusqu'à preuve du contraire. Normalement, on n'a pas un gouvernement de droite.
Non,
bon,
mais non.
Mais un petit peu quand même. Non, en France, il y a quand même des choses qui se passent. Après, il s'avère que nous, on a un rapport à l'immigration qui est différent. On a une histoire différente avec l'immigration. Et par contre, on a chez nous, un parti nationaliste qui est très très fort dans les sondages, hein, qui est à 27-28% dans les résultats des dernières élections au premier tour, voire plus à certains moments. Nous, ce qu'on a plus chez nous, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de précarité en France, malgré les 30% en plus qu'il y a de millionnaires en 2016 en France.
Non, mais ils sont venus en Belgique.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'en fait, il y a tellement de, enfin, c'est tellement facile et tellement populiste de dire c'est l'autre, c'est l'étranger qui crée ta précarité, alors qu'on le sait très bien, ce sont les grands patronats, l'ultralibéralisme et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a des conditions de vie qui sont en train de se dégrader pour les Français de France, et que donc du coup il y a un repli parce que aussi il y a moins d'accès à la culture, moins d'accès à l'éducation qu'avant, parce que il y a une mainmise aussi sur les médias. Et je pense que, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais nous, clairement, aujourd'hui, en France, 5 des 10 plus grandes fortunes de France, 5 des 10 plus grandes fortunes détiennent 85% du parc média français. Donc on a une oligarchie vraiment qui domine le système médiatique et le rapport à l'image. Et donc du coup, nous, la problématique, moi, ce que je vois un peu chez nous, c'est qu'en fait, finalement, on crée très peu d'espaces de rencontre, en fait. Hein. Moi, je crois que quand on a peur des autres, quand on a des préjugés, et ce qui arrive à plein de gens, et ce qui est aussi parfois légitime, hein, je veux dire, on est humain et on a le droit de se poser des questions, c'est qu'à un moment donné, on ne crée pas les espaces de rencontre. Par exemple, la radio peut être un fabuleux espace de rencontre et de discussion entre des personnes. Apprendre à faire de la radio ensemble, ça peut être un moyen. Apprendre à faire du cinéma, aller jouer à la pétanque, faire du football. Enfin, il y a plein de moyens, et ça, en France, je pense qu'on le fait de moins en moins. Et à côté de ça, on a aussi très peu de médias qui donnent la parole aux gens concernés. Souvent, on va entendre les responsables associatifs, les collectifs citoyens qui accompagnent et encadrent un peu les solidarités avec les migrants. Mais finalement, les gens, très peu. Qui sait que Mamadou Kanté, je sais pas, je connais, parce que j'ai un pote qui s'appelle Mamadou Kanté. Alors, est-ce que Mamadou Kanté, on sait autre chose? Il a l'occasion à un autre moment de raconter une autre histoire que celle que les médias veulent bien raconter pour lui ou que les autres veulent bien raconter pour lui. Et à partir du moment où on broie cette parole et où elle n'existe pas, du coup, le Français lambda, il a tellement de complications dans sa vie et ça le fait tellement chier qu'il va pas se préoccuper de savoir un peu plus que ce que lui vend la télévision.
D'autant plus que je crois que c'est pareil en Belgique, tu sais. Et enfin, clairement, c'est pareil. Ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, mais même nous là, on est occupé à dire les migrants, les réfugiés, et ça devient clairement une espèce de masse abstraite. Ça devient c'est déshumanisé, totalement déshumanisé, et on ne voit plus. On voit le danger réfugié, on nous montre le danger migrant, on nous dit voilà, donc ils vont arriver, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, hein, clairement pas.
Disons que ma bonne dame, ça va pas bien.
Déborah, je te coupe quand même, parce qu'on ressort toujours cette phrase, n'oublions pas que cette phrase, il y avait une suite qui disait qu'on doit en prendre sa part.
Tout à fait, mais ça on l'oublie. Mais c'est, je crois que de plus en plus on rappelle la suite de la phrase. Mais voilà, c'est une masse abstraite et il y a personne qui s'intéresse. Enfin, si personne, je parle dans les médias, les médias dominants, les médias que tout le monde voit, que tout le monde entend, on ne s'intéresse pas aux personnes qui sont derrière ce mot réfugiés, migrants. Quelles sont leurs histoires? Parce que aussi, on peut en sortir plein. On va en sortir plus tard dans l'émission. Les gens sont persuadés que les réfugiés, hein, les réfugiés, cette masse abstraite, ce sont des pauvres qui vont, qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont plus rien là-bas. Et donc, c'est remettre aussi, donc quand tu dis c'est leur redonner la parole, c'est remettre de l'humain, hein, j'en le disais tout le temps, c'est remettre de l'humain derrière des mots abstraits complètement et remettre. Une rencontre en fait.
Mais ça, pour moi, ça répond à juste un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui est le droit à l'expression, hein, tout simplement le droit à exercer son expression et de pouvoir parler en son nom. C'est un des articles de la Déclaration. Je reviens à ce que tu disais sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, hein, bien sûr,
oui,
avec
un
second degré, évidemment. Et quand tu dis on prend sa part, mais la question c'est au-delà de qui sont-ils ces personnes. C'est pourquoi, comment, à un moment donné, en fait, hein, parce que la misère, elle n'est pas arrivée comme ça. Hein. Il me semble qu'en Afrique, sur le continent africain, par exemple, des richesses dans les sols et dans la nature, il y en a un paquet, sauf qu'en fait, finalement, au lieu de la partager, on est allé la prendre. Donc, à un moment donné, ça commence à poser un petit peu des problèmes pour pouvoir se développer sur son territoire. C'est pareil pour les grandes multinationales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les multinationales qui travaillent avec des filiales à l'étranger, il n'y a pas de responsabilité officielle et juridique des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés mères, qui vont installer des filiales à l'étranger et donc complètement accaparer les terres,
les ressources
la plupart du temps de manière complètement antidémocratique, sans concertation, et deuxièmement sans employer les gens du coin, hein, et donc à un moment donné, il y a la question des réfugiés, et il faudrait redéfinir les mots, on a cherché les définitions avec Camille cet après-midi, il y a la question des réfugiés, c'est-à-dire à un moment donné, se réfugier pour fuir une condition qui fait craindre notre vie, qui pose un problème par rapport à notre survie sur la Terre. Et puis il y a aussi à un moment donné, comment j'arrive à me développer dans mon pays quand tout a été pris et que la misère elle est là, et qu'est-ce que je vais chercher ailleurs. Et donc ça, c'est plutôt le cas de ceux qui vont migrer, en fait, hein. On a travaillé un peu ça avec Camille.
C'est ça. Bah, on peut rappeler un petit peu ce que c'est que la définition, hein, d'un réfugié. Un réfugié, c'est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle. C'est une personne qui craint d'être persécutée du fait de sa race. Alors le mot race, bon, cette déclaration date de 1951.
Ah, oui.
On le dirait plus forcément comme ça aujourd'hui.
On peut dire bonjour à Nadine, comme traditionnellement quand on appelle mot race, oui, dorénavant.
Il n'y a qu'une seule race, celle qu'on se met le week-end.
Voilà. Ou demain.
En référence à Nadine Morano. Donc, bref, sa race, sa couleur de peau, peu importe sa religion, sa nationalité, son appartenance, ou un groupe social, ou ses opinions politiques, et qui, de fait, ne peut réclamer la protection de ce pays, ou qui ne peut pas y retourner en raison d'une crainte. Ça, c'est un réfugié. Un migrant, c'est un vieux phénomène. Les déplacements d'individus, ça existe depuis bien longtemps. Et puis, quand on discutait, on s'est rendu compte qu'il y a un autre mot qui revenait souvent, surtout pour nous qui sommes belges, qui vivons à Bruxelles, c'est les expats. Et alors ça, les expats, c'est complètement différent, en fait. Être expat, c'est super positif quand on vit à Bruxelles, qu'on va boire un verre Place du Luxe, qu'on habite à Schumann. Alors ça, c'est, voilà, ça vient de... L'expatrié vient d'une entreprise. Finalement, c'est un migrant comme un autre, sauf que lui, il a la chance d'avoir un statut, d'être bien encadré.
Puis mais souvent, ça, il est blanc quand même.
Il est souvent blanc, ouais.
Souvent blanc, il porte une chemise blanche et puis il est un peu grand aussi.
Ouais.
Oui, un col blanc, quoi.
Ah, je connais des expats petits. Hein.
Ouais.
Qui ont un t-shirt noir et qui font de la radio à Esperanza, par exemple.
Et si vous permettez, je pense que... Pour moi, je pense qu'être réfugié ou migrant ne veut pas dire ou ne montre pas directement la misère, parce que j'ai une expérience d'un déplacement ou de ce qui se passe quand on est réfugié. Chez nous, au Congo, j'ai fui lors de l'éruption volcanique. Je suis parti au Rwanda. Cela ne m'a pas vraiment rendu tellement misérable, quoi. Être migrant, être réfugié ne te rend pas directement voleur ou brigand. Il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui partent là-bas et ils ont laissé leur fortune dans leur pays d'origine. C'est pas spécialement, peut-être qu'ils n'ont pas accès à ça, peut-être qu'ils peuvent squatter une petite chute en bâche et tout, mais... Ils sont là, ils vivent chez eux dans de bonnes conditions et peut-être donc ça ne les rend pas directement quelqu'un de mauvais. Et d'ailleurs, souvent, il y a ceux-là qui arrivent dans les pays qui les accueillent et peut-être qui apporte des innovations et peut-être qui apporte des bonnes choses pour le pays. Et peut-être un autre aspect, c'est la solidarité. Pour moi, je considère souvent qu'elle devait être réciproque des fois. Pourquoi ? Parce que la situation de déplacement ou de migration, ça peut arriver aujourd'hui à un pays X. Nous, on accueille ceux qui ont fui. Et après, peut-être, c'est nous qui devons aller chez eux. Mm. Je donne un exemple. Chez nous, c'est juste un petit contraste. En 1994, il y a les Rwandais qui ont fui le Rwanda, le massacre. Ils sont venus chez nous. Arrivés chez nous, pendant beaucoup d'années, ils sont restés. Malheureusement, on a eu une mauvaise expérience. Ils ont créé des petits... un groupe rebelle qui crée beaucoup de troubles. Mais quand nous aussi, on a eu à Goma, parce qu'on est juste à la frontière, quand on a eu éruption volcanique, il n'y avait pas où aller à part le Rwanda. Alors, s'il y avait cette rancune-là ou s'il y avait ce bras de fer-là, ce manque de solidarité, soit on devait aller dans le lac qui est juste à côté de notre ville de Goma. Ouais. Parce que la seule ville qui pourrait nous accueillir, c'est le Rwanda. Ou Gisenyi, carrément. Alors, Gisenyi a ouvert ses portes et nous sommes arrivés chez eux. Mais bien sûr, les Congolais étaient un peu orgueilleux. Ils n'ont pas... Ils ont cru que c'était vraiment leur droit. Ils n'ont pas considéré que... peut-être c'est parce que c'est une mesure de clémence, parce que nous les avons accueillis en 94, qu'eux aussi ont accepté. Mais ils n'étaient pas prêts directement à nous accueillir. Mais parce qu'il y a cette collaboration-là, il y a cette solidarité... Ça permet quand même que les gens vivent ensemble. Et puis, la grande chose qui abîme tout, c'est quand il y a des tendances politiques qui s'ingèrent dans cette histoire de déplacement. Quand on laisse ou on la regarde d'une manière humaine, sociale, sans tenir compte d'appartenance politique, je pense que ça ne poserait pas trop de problèmes d'accueillir les gens dans son pays ou à l'extérieur.
Bah, en tout cas, en France, ça a l'air de poser un problème à beaucoup de gens. Enfin, en France, pardon, en Belgique. Excusez-moi, je n'y crois. Ça a l'air...
En France aussi.
Oui, en France aussi, carrément. Mais en fait, c'est ça qu'on disait, c'est que... Enfin, dans ce que montrent la télévision et les grands médias aujourd'hui, de l'image qui est retenue par la majeure partie des populations en Belgique ou en France, c'est qu'en fait, finalement, on ne montre que des gens qui seraient, conditionnels, misérables, qui viendraient ici nous voler une partie finalement de notre pays, de nos droits, de nos richesses et tout ça, et que finalement on montre très peu et on fait très peu la promotion des questions de solidarité. Alors si on va parler de la fraternité, l'égalité, les trucs de la République là, on va en parler, mais en fait concrètement, dans le concret, il se passe pas grand-chose. Il y a des accueils, il y a des accompagnements, il y a des financements d'associations, mais il y a tout un travail d'éducation populaire, de documentation et d'information. Je ne sais pas quand il va arriver, parce que là, clairement, dans ces deux pays-là, de plus en plus, on tend vers un repli et donc vers une montée des extrêmes qui amène des gens comme le Front National à être en tête des élections au premier tour ou le Parti Nationaliste à dominer un pays comme la Belgique. Quoi.
Dans les pays tout autour aussi, plus largement.
Oui, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose aux Pays-Bas, à chaque fois dans des mesures différentes, mais il y a toujours ce phénomène de fond. Alors on parle toujours de cet afflux. Enfin, c'est ça qui a été mis beaucoup en avant dans pas mal de médias, mais c'est ce que je le rappelais tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'on a eu en Belgique 39 000 demandes d'asile en 2015. C'est pas énorme, on a déjà eu 46 000, et ça, surtout ça correspond à... voilà, il y a un affluencement effectivement qui vient de Syrie et d'Irak. C'est pas destiné à durer, c'est beaucoup de gens qui ont envie de retourner vivre chez eux, enfin, surtout des gens qui n'auraient pas voulu en partir, qui avaient une situation, qui avaient une vie. Donc ça, c'est... Si on parle de crise, elle ne peut être que dans le meilleur des cas temporaire. Et puis finalement, ce n'est pas dramatique.
Alors justement, on parlait projets. De 2, 3, 4, oui. De projets qui étaient menés. Et bien justement, avec Esperanza et la DGD, donc la Direction Générale au Développement, on a organisé Radio Roulotte. Et la première étape de cette radio, donc, tirée par des chevaux ardennais, c'était d'emmener des jeunes donc, aux médias radio en découvrant des alternatives locales autour de Floref. Et la première étape, le départ même, se faisait de Belgrade à côté de Namur, hein, pour les auditeurs qui ne savent pas qu'il y a un Belgrade en Belgique.
Ah bah moi je l'apprends.
Ah bah voilà, oui, on n'est pas parti de Belgrade, on n'a pas fait un long trajet. Donc Belgrade, c'est juste à côté de Namur, c'est dans l'entité de Namur. C'est un centre de la Croix-Rouge donc, qui a été ouvert en septembre 2015. Oui, c'est en septembre 2015. Et bah, les jeunes, ils ont entre 20 et
26
ans. Et bah, on peut les interroger. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que interroger des personnes vivant dans des centres Croix-Rouge pour réfugiés, c'est pas évident parce que il faut leur accord déjà. Il faut leur dire que ça va être diffusé. Et nous, on n'a pas pu enregistrer sans qu'il y ait du personnel du centre Croix-Rouge avec nous. Donc on ne pouvait pas rester seul avec. On nous a dit clairement également qu'on ne pouvait pas, enfin qu'il n'était pas conseillé de leur poser des questions sur leur parcours en fait, sur leur vie intime. Donc sur leur vie avant l'arrivée en Belgique. Après François, que je salue d'ailleurs et que vous aurez l'occasion d'entendre, a tourné ces questions assez bien pour que des gens puissent parler de leur vie avant et de leur vie ici. Et je vous propose d'écouter Lee qui vient du Salvador. C'est assez court, mais voilà, c'est un des exemples de personnes qu'on a pu rencontrer.
Ça allait ?
À Belgrade et j'ai 6 mois d'habiter ici.
Et ça fait 6 mois qu'il vit ici, t'as compris.
Oui. Et juste comme ça, quelle profession exercez-vous avant de venir ici?
Et j'ai été comptable et j'ai été professeur d'anglais à El Salvador et j'ai été bénévole et dans l'église et pour apprendre et pour et professeur d'anglais.
Et par rapport à votre vie ici en Belgique, dans le centre de la Croix-Rouge, comment qualifieriez-vous votre vie ici et votre vie par rapport à votre vie là-bas?
Et pour moi, c'est une belle ville, et Namur, Belgrade, parce qu'il y a beaucoup de personnes gentilles, et à l'air dur pour la communication, la gare et la Ravel. Pour moi, que la Ravel c'est très facile avec la vélo ici. Je faisais Liège, Charleroi, la Meuse, c'est belle. Et regarder les poissons sur la rivière, la Meuse, c'est bon pour moi. Et tout le monde ici, c'est très, très sympathique.
Et la musique, ça vous parle? Est-ce que vous êtes aussi un peu musicien? C'est musical?
Et pour moi, avec la musique... Il y a, je pense, 10 ans que j'ai joué la guitare avec mon grand-père. Et ma grand-père est décédé, mais ici, c'est un petit peu difficile parce que la musique d'El Salvador, c'est l'espagnol et parfois l'anglais des États-Unis. Et ici, c'est différent parce que la musique, c'est en français. Parfois, il y a beaucoup de musique ici à l'espagnol, mais c'est difficile parce que tout le monde écoute la musique en français.
Oui, c'est vrai. On écoute aussi beaucoup de musique espagnole ici aussi. On écoute Manu Chao. Tu connais Manu
Chao? J'adore Manu Chao parce que, oui, j'ai regardé que Espérance, c'est le même Manu Chao que je connais. Me gusta, il y a une chanson que me gusta la guitare, me gustas tú, me gusta. C'est bon.
C'était Lee, interviewé par François et Emeline. Et en fait, j'avais un truc à dire et là, je viens de papoter d'autres choses et donc l'idée m'est sortie de la tête. Et c'est un centre pour réfugiés. C'est rien que des hommes isolés là-bas. Et donc c'est eux qui sont ici sur le festival. Donc Jérôme expliquait tout à l'heure qu'ils sont là en tant que bénévoles. En fait, ils viennent mettre la main à la pâte du du festival. Donc voilà.
On les aura normalement. On en aura une partie qui viendra nous visiter demain dans Possible. Alors, Possible à 17h30 en direct.
Et alors, pour parler là, justement du centre de Belgrade, là, j'ai pas l'interview montée. Donc là, je l'ai brute et je sais pas laquelle c'est. On a interviewé donc aussi les travailleuses sur place. Enfin, deux travailleuses, donc la coordinatrice et une travailleuse sociale, je crois. Et donc là, évidemment, on leur demandait tiens, et ça s'est passé comment l'ouverture du centre Croix-Rouge? Parce qu'on se souvient du centre pour réfugiés de Walcourt, enfin pour les Belges, ça avait fait un assez gros scandale dans les médias, les réactions des riverains. Tandis qu'à Belgrade, en fait, ça s'est passé mais super bien. Il y a eu directement tout un élan de solidarité. Donc dès le départ, en fait, les habitants sont venus donner un coup de main dans le centre Croix-Rouge. Ont amené des tentes, des couvertures à manger. Ont fait des animations. Ils viennent encore maintenant donner des cours de français, garder les enfants. Pas garder les enfants. C'était quoi? Oui. Enfin, il y a vraiment un élan de solidarité et d'entraide énorme du côté de Belgrade. Et donc ils n'ont pas eu toutes ces questions, toutes ces réactions d'hostilité qu'on a pu entendre dans d'autres, dans l'ouverture d'autres centres pour réfugiés. Alors soit j'en ai un deuxième d'un Guinéen, soit on continue sur autre chose. On peut passer donc le Guinéen. Je dis le Guinéen, je suis désolée parce que je ne me souviens absolument plus de son prénom.
Je réponds au nom de Baldé, je suis de nationalité guinéenne. Je suis là en Belgique il y a cela quelques mois et précisément à Belgrade puisque presque depuis mon arrivée je suis là. Bon, je ne connais pas assez de lieux en dehors de Belgrade ou Bruxelles un peu, disons. Donc, mais depuis mon arrivée, je me dis ça va. Certes, on a croisé quelques difficultés puisque nous sommes là venant de différentes régions et avec des cultures différentes et tout ça. Mais avec la collaboration et la sympathie de tout un chacun, on arrive à se jumeler et à se faire comprendre, certes. Donc, puisqu'il y a d'autres qui ne parlent pas français, d'autres qui ne parlent pas anglais et tout ça. Mais il y a, je peux dire, en quelques mots de rigolade, des mots standards ici que tout le monde connaît, comme dire « Hello, good morning, how are you, fine and you ?» Bon, juste avec ça, que tu viennes de partout, tu sauras dire « Hello, good morning » pour te faire comprendre avec l'autre. Et ça marche avec ça, ou dire juste « Bonjour » ou « Bonsoir ». Donc, avec la sympathie et la collaboration de tout un chacun, nous nous en sortons. Ça va et à merveille.
Et nous sommes membres d'une ASBL qui s'appelle l'ASBL Z, qui organise notamment le festival Esperanza. Quel est votre avis par rapport aux événements culturels, notamment aux événements qui organisent des concerts de musique?
Moi je peux dire tout ce qui est culturel, j'aime bien, puisque certes, même si ce n'est pas ma culture à moi, d'abord je respecte, j'aime bien ma culture, donc j'aime la culture des autres aussi, vous voyez. Et donc tout ce qui est culturel, ça me plaît en fait. Donc que ce soit de la musique ou de l'art ou de la danse ou un truc de ce genre, ça me plaît la culture en général, ouais.
Et voilà, c'est à nous. J'ai de nouveau pas retenu son prénom, cet homme-là, c'est incroyable. Baldé, je crois. Voilà. Voilà, lui aussi qui parle de ce centre de Belgrade, donc qui a ouvert en septembre 2015. Et on a avec nous en studio également Carolila qui vient de nous rejoindre, qui se demande ce qui se passe avec son casque, mais tout va bien.
Tout va bien.
Tu nous entends?
Bonjour.
Donc toi, Caro, tu es infirmière de formation et tu as travaillé dans un centre d'accueil, un centre de pré-accueil. Vas-y, explique-nous tout ça.
Oui, donc j'ai bossé en tant qu'infirmière dans des centres Croix-Rouge qui accueillaient les migrants. Et d'abord les primo-arrivants, donc un centre qui accueillait vraiment les gens avant l'Office des étrangers, donc avant d'être réattribué dans d'autres centres d'accueil partout sur la Belgique, que ce soit Croix-Rouge, Fête d'Asile, voilà. Et donc c'était la Croix-Rouge qui avait été mandatée pour ouvrir ce centre de pré-accueil. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant de rentrer en contact avec les réfugiés vraiment au tout premier moment de, on descend du train et on débarque. Donc voilà, et puis ensuite j'ai presté pendant un mois dans un autre centre structurel qui ressemble au centre de Belgrade, je ne sais pas si vous en avez parlé. vu que je suis arrivée en retard. Ma faute. Donc un centre plus long terme avant d'avoir la décision de l'Office des étrangers, si oui ou non les gens sont acceptés sur le territoire belge.
On n'a pas fait, en fait, on n'a pas parlé des différents du parcours, en fait. On ne l'a pas fait. De ce qui se passe pour un réfugié quand il arrive.
On peut peut-être dire un mot là-dessus, notamment sur les aides qu'il reçoit, parce qu'on va en parler tout à l'heure, on va parler des clichés qui collent à toutes ces personnes qui arrivent. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail maintenant, mais quand même dire un mot. Donc quand ils arrivent, ils doivent déposer une demande d'asile. Caro, tu me reprends si je dis une bêtise.
Oui, à l'Office des étrangers.
À l'Office des étrangers. C'est ça qui a posé un gros problème à Bruxelles, c'est que l'Office des étrangers n'avait pas les capacités en termes de personnel pour accueillir tout le monde. Ils ne pouvaient recevoir que 250 personnes par jour. Donc tous
parce
les autres...
qu'ils étaient ouverts quoi, de 9h à 16h avec une pause entre midi et 2.
Plutôt de 8h30 à 10h et puis après ils traitaient les gens qui s'étaient présentés à cette heure-là. Si tu te présentais à d'autres moments, tu n'étais pas pris.
L'heure, c'est l'heure. Hein. Il ne faut pas... Donc, bref, mais au-delà de la question des horaires, c'est surtout qu'il y avait un manque de personnel, tout simplement. Il y a des gens qui ont été engagés plus tard, mais évidemment, ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, tous ces gens, ils devaient se débrouiller. Et surtout, ils étaient à la rue. Et être à la rue en hiver, bah, c'est pas drôle. On était non plus, mais l'hiver, c'est vraiment dur. Pendant toute cette période, ces gens ne reçoivent pas d'aide financière. Ils vont recevoir une aide un petit peu plus tard, quand ils auront été reconnus comme réfugiés. Mais pendant toute cette période, il faut bien insister sur le fait qu'ils ne reçoivent pas un centime. D'où le scandale. Peut-être un petit centime.
En fait, donc, à partir du moment où ils font leur demande, ils ont droit... je parle d'une première demande. Il y a des cas particuliers quand il y a des multiples demandes, et là, ça devient plus compliqué. Mais imaginons quelqu'un qui vraiment arrive et a sa première demande. Donc, il a le droit à l'aide matérielle. Donc, le logement, la nourriture, les soins de santé, et les vêtements. Ce qui est déjà pas mal. Et quand il rentre dans un sens structurel, il y a des travaux communs. Et là, ils reçoivent une petite dringuelle. Hein. C'est pas grand-chose, mais...
Un petit peu d'argent de poche.
Un petit peu d'argent de poche. Et également, pour leur déplacement, ils ont des tickets de train pour, en tout cas, aller à leur interview chez l'avocat. Et aussi, pour aller en vacances, ils ont le droit d'avoir des... Voilà. Donc, ils reçoivent pas de l'argent, mais normalement, tout est couvert sur leurs besoins.
Mais alors, la grosse période qui est problématique, c'est l'avant, quoi. Entre le jour où ils arrivent et le jour où ils sont reconnus comme ayant déposé une demande, là, c'est...
C'est pour ça que l'État avait créé les centres de Croix-Rouge de pré-accueil, qui a duré 9 mois exactement, parce qu'à l'époque, la crise des réfugiés a eu tellement de monde qu'ils étaient dépassés, et que donc, c'est là que des initiatives citoyennes ont créé le parc Maximilien, qui se trouve juste à côté, donc... De l'Office des étrangers et du CGRA, parce que c'est deux organismes différents. Donc l'Office des étrangers, c'est l'endroit où tu es accueilli, le premier entretien, on va dire, où tu fais une radiothorax pour voir si tu n'as pas la tuberculose, ou tu es interrogé pour savoir de quel pays tu viens, etc. Ensuite, ils analysent un peu ton dossier pour voir si tu ne viens pas, si tu n'as pas posé une demande dans un autre pays. Dans ce cas-là, ils ont le droit de te renvoyer dans le premier pays où la demande a été faite. Et ensuite, le dossier passe à un organisme qui s'appelle la CGRA. Et c'est eux qui vont analyser. Et eux sont, normalement, en tout cas de ce qu'on m'a dit, c'est un organisme indépendant qui prend les décisions pour savoir si oui ou non le réfugié est accepté. Mais ça prend entre, logiquement, 3 à 6 mois avec la crise des réfugiés, 1 an à 2 ans.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen de ce dossier, c'est pas forcément quelque chose de toujours très facile pour les migrants. On leur pose des questions qui sont très, très personnelles. Mmh. Et surtout, le rôle des agents du CGRA, c'est de déceler des incohérences dans le discours des personnes qu'ils interrogent, ce qui permettrait d'établir que la personne est en train de mentir et donc cache quelque chose et n'a pas droit au statut de réfugié.
C'est ce qu'on entendait dans le premier épisode de Diptyque Afghan, voilà. de Alain Dehalleux.
Qui a été diffusé un petit peu plus tôt, tout à fait. Et du coup, pour des personnes éduquées, répondre avec cohérence à toutes les questions, c'est pas trop compliqué. Parfois, on a affaire à des personnes qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas beaucoup étudié, qui ne savent pas forcément bien s'exprimer. Même quand elles s'expriment dans leur langue, c'est pas toujours simple et elles ont du mal à tenir un discours cohérent. Et là, l'agent peut dire, cette personne qui se dit menacée, moi, j'ai pas la preuve qu'elle est menacée, donc c'est refusé.
Oui, et en fait, il y a beaucoup d'incohérences qui sont relevées. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui revenaient au centre de pré-accueil en disant, j'ai eu un problème parce que la personne ne me croit pas. Déjà, il y a le problème de la traduction. Donc il y a des traducteurs, mais il y a parfois des patois de Centrafrique, des choses vraiment très précises où les traducteurs traduisent comme ils peuvent. Hein. C'est des gens qui sont qui sont vraiment formés aux langues, mais c'est, ça reste quand même compliqué pour les traductions. Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même système de temps que nous. Donc avec les années, les mois. Et donc quand on leur demande combien de temps a pris votre trajet, donc on ne vérifie pas quelle était la menace dans leur pays, mais on vérifie la cohérence de comment est-ce qu'ils sont arrivés chez nous et quel a été leur trajet, leur parcours, etc. Et donc on va leur dire, ok, vous êtes parti quelle date ? Vous êtes arrivé dans quel pays, quelle date ? Vous êtes resté sur le pays combien de jours ? Et en fait, ils s'en mêlent complètement les pinceaux parce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, ils pensent, vous êtes passé en Bulgarie combien de temps ? Et moi, je sais un Afghan qui m'avait dit, moi, j'ai dit 3 jours, mais c'est 3 jours où je me suis arrêtée. Parce que tous les autres jours où j'étais en Bulgarie, j'ai avancé. Et donc, je n'ai pas dit le nombre de jours total où j'étais dans le pays. Et du coup, le compte de mes jours à la fin n'était pas juste. Et donc, ils ont estimé que je mentais. Et ils étaient dans un état pas possible parce que... Voilà, et c'est plein de choses comme ça. Il y a des gens aussi, ils entendent parler qu'il vaut mieux pas dire que ceci, il vaut mieux pas dire que cela, parce que t'as moins de chances d'être pris. Et donc, du coup, ils transforment un peu leur histoire. Et si on trouve un mensonge ou une incohérence, c'est fini. Donc, c'est assez compliqué de leur expliquer qu'il faut absolument dire toute la vérité. Et en plus de ça, même s'ils disent la vérité, parfois, il y a des malcompréhensions et du coup, des situations horribles, en fait, hein.
Mais pour revenir là au documentaire de Alain Dehalleux, là, Diptyque Afghan, il y en a un qui dit à un moment, moi ils m'ont demandé le nombre de radios que je captais chez moi, et j'ai hésité, et ils m'ont dit que je mentais. Donc parce que voilà, le gars, il habitait, c'est un Afghan, Diptyque Afghan, et donc ils lui ont demandé combien de radios, et il dit, mais je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'il me posait ça, puisque... Il ne connaissait pas les radios qu'il y a chez moi.
Ça n'a pas de rapport.
Et en fait, il a commencé à réfléchir et donc il n'a pas répondu.
En fait, ils connaissent. Hein, les agents de CGRA sont formés.
Savoir combien de radios il y a dans la montagne afghane.
Apparemment, ils ont vraiment des spécialistes par zone qui connaissent beaucoup de détails de la ville, etc. exprès pour pouvoir vérifier les informations.
Après, moi, tu me demandes combien on capte de radios à Bruxelles. Je suis incapable de répondre. Hein.
Beaucoup. Beaucoup, ça compte comme réponse.
C'est ça, quoi.
Mais ce qui est fou, enfin, moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que tu perds toutes tes libertés, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les questions. Enfin, je veux dire, ta problématique à ce moment-là, elle n'est pas de savoir combien il y a de radios, ni savoir combien de temps tu as passé en Bulgarie, ni. Parce qu'à un moment donné, tu vis dans un pays où c'est la guerre, où tu risques ta vie tous les jours, des fois où tu es pourchassé. À un moment donné, au risque et péril de ta propre vie, tu traverses un endroit. Qui des fois est en guerre, des fois c'est la mer, et t'arrives dans un endroit où même là, il y a encore tout un tas de choses qui font que t'es même pas, enfin t'as aucune liberté dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens, et donc non seulement au niveau administratif, et ça c'est un fait, et bon il y a des lois, et il faut les respecter, sauf que la manière avec laquelle c'est fait, ça peut quand même paraître troublant par rapport rien qu'à la propre dignité des gens. Mais ensuite, c'est que du coup, il n'y a aucun autre canal possible, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si on les montre, mais ils n'existent pas. Leur parole, elle n'existe pas, quoi. Elle est entendue nulle part, quoi. C'est-à-dire que dans la justice, c'est compliqué, l'administratif, c'est compliqué. Et en fait, il n'y a aucun média qui te donne la parole pour exprimer ton histoire, pour raconter ta vie, et raconter ta propre vie plutôt que ce soit d'autres qui la racontent à ta place. Et moi, je trouve ça absolument fou.
Il y a des initiatives, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, il y a des organismes humanitaires, il y a quand même des choses positives qui se passent, et des belles rencontres et des choses très, très émouvantes, hein, les échanges magnifiques.
Bien sûr, non, je voulais parler dans la masse, ce qui enlève de la masse, en fait.
Ce qui est difficile, c'est la suspicion de culpabilité avant tout. Donc, en fait, leur objectif est de prouver qu'ils mentent, au lieu de faire l'inverse, prouver qu'ils disent qu'ils ont raison, en fait. Ils arrivent, ils ont fait un chemin comme ça, ils sont tout seuls, ils n'ont même pas de valise, ils n'ont rien. Ils n'ont rien sur eux, c'est quand même, je veux dire, tu te dis, ok, bon, personne ne fait ça, quoi. Quitter son pays, débarquer tout seul, t'as plus rien sur toi, t'as des freins que tu portes depuis 15 jours. Il y a quand même déjà une preuve que t'es pas bien chez toi. Mais le truc, c'est que les réfugiés, on prend les réfugiés, mais pas les réfugiés économiques. Donc, du coup, si tu veux... Le problème est là, les mouvements de masse. On ne prend pas en compte les réfugiés climatiques, les réfugiés économiques. Et pourtant, c'est aussi des réfugiés qui auraient besoin d'aide, en fait. On considère que c'est juste des réfugiés politiques et ou des gens qui ont été torturés parce qu'ils étaient gays ou parce qu'ils étaient contre l'État ou qu'il y a eu la guerre chez eux. Mais c'est des classes très précises. Donc tous les autres gens qui bougent, ils sont pas considérés comme...
Ah bah oui, non,
ils atteignent jamais le statut de réfugié. C'est compliqué.
Eh ben nous, enfin, on en parlera après. On va se lancer un petit morceau de musique et on revient là-dessus après, justement. Ça fera le lien avec la radio des foyers. Une petite musique qui traîne, alors que Thomas est à sa deuxième émission de Radio Esperanza et qu'il se fait encore la main et qu'il nous cherche une petite musique pour faire une coupure et revenir dans quelques instants. Attention demain, Thomas. 3, 2, 1, la musique dans la peau.
Ça
Thomas
traîne.
Au didgeridoo, Thomas au platine, Thomas aux manettes, Thomas anxieux, Thomas ne sait plus où aller, sur quel bouton. Voilà!
Aqui na piscina, eu tô descansando. Descansa dormindo e dorme boiando, 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 boiando na piscina.
Voilà, c'était un morceau de... C'était un morceau de ska qu'on a coupé gras. Et donc juste avant, c'était un morceau de musique sûrement d'un artiste qui sera sûrement à Esperanza cette année. Ça s'appelait La Piscina. Voilà, mais on ne sait pas de qui c'était.
Mais on vous le dira dans le courant de cette soirée, durant le courant de cette édition 2016 de Radio Esperanza, 15e édition, non pas de la radio, mais du festival. Soirée Welcome Refugees avec Camille, Lisette, Betty, Carolina, Kelvin, Leslie, Thomas, Fox, un peu tout le monde à la technique, Lise à tout le reste, et qu'on salue d'ailleurs Leslie et Lise, qu'on n'a pas pu entendre durant l'ouverture d'antenne parce qu'elles n'étaient point encore là, coincées dans les embouteillages avec leur sac à dos, à marcher le long de la Sambre, parce qu'elles ont marché en fait depuis Bruxelles et sont parties hier matin avec leur sac à dos. Elles sont montées jusqu'à l'abbaye de Fleuref. Elles sont pimpantes quand même, c'est assez étonnant. Voilà, elles sont chaudes. Ah bah, elles ont de la chance, parce chaudes. Parce que cet été, c'est pas encore tout à fait ça. Bref, Refugees, welcome Refugees. Je sais jamais dans quel sens c'est. Et la suite, c'est maintenant. Lisette. Je devais tousser.
Bah oui, la suite, en fait, on parlait... on parlait de la... à la fois de l'image des personnes qui migrent ou des personnes qui sont réfugiées, avec des statuts qui sont différents, comme tu disais. On a le réfugié de guerre, enfin, et puis qui va demander de l'asile, et puis les réfugiés climatiques, économiques, qui eux finalement n'ont pas vraiment de statut et qui peuvent pas demander grand chose et qui vivent des fois, parfois, des années et des années sans papier sur des territoires. Nous, on en a rencontré pas mal, des personnes qui sont devenues des amis, avec qui on a monté une radio, justement. Dans les foyers de travailleurs migrants en Île-de-France, l'idée, en fait, c'était... Donc nous, en France, on vit et on partage notre vie avec notamment pas mal de personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Les personnes d'Afrique de l'Ouest qui ont largement participé à la reconstruction du pays, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, avec aussi les pays du Maghreb. Voilà, et en fait, il s'avère qu'en France, ces gens-là, on les a mis dans des endroits qui s'appellent en gros les foyers de travailleurs migrants, qui sont des endroits qui ont été créés dans les années 50-55, souvent en périphérie des grandes villes, ou dans des quartiers qui sont aujourd'hui dites de zones prioritaires. Donc, on peut avoir un foyer de travailleurs migrants qui n'a pas été rénové depuis 30 ans, entre un cimetière et le périphérique, ou entre un cimetière et une autoroute, ou... dans un endroit où il n'y a aucun autre habitant, comme ça, on fait peur à personne. Et donc, en fait, nous, on était bénévoles dans une association qui s'appelait Attention Chantier, et à force de rencontrer toutes ces personnes via un festival qu'on organisait dans les foyers, un jour, on s'est dit... mais en fait, un des problèmes de tout ça aussi, c'est que, en fait... Les personnes qui migrent ou les personnes qui se réfugient, ça me dérange toujours ces mots, j'ai vachement du mal avec. Mais en fait, à un moment donné, il y a plein d'actions solidaires, il y a plein d'actions citoyennes, et il y en a plein, mais à un moment donné, malgré tout, moi, quand on me parle, par exemple, du droit de vote aux élections locales en France des étrangers, des étrangers, j'en entends pas. Par contre, j'entends des responsables associatifs, j'entends des militants associatifs, mais des gens qui sont profondément, intérieurement, eux-mêmes, au quotidien, qui vivent ces questions-là, en fait, et qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne se les posent pas, en fait, on les entend pas. Et en fait, il n'y a aucun canal qui permet qu'ils soient entendus et qu'ils disent même ce qu'ils veulent, en fait, juste raconter de ce qui relève de l'intime, de ce qui ne relève pas de l'intime, de ce qui relève d'un parcours, de ce qui relève d'une rencontre, de ce qui relève d'un avis politique. Et donc, on s'est dit, tentons de monter une radio dans les foyers de travailleurs migrants, une radio web. Donc, du coup, la radio web, elle permet d'être entendue aussi jusqu'au continent africain, ce qui permet aussi de déconstruire beaucoup de symboles et d'images que peuvent avoir aussi les habitants de ces pays-là, notamment sur le paradis européen, le rêve européen, et qui, en fait, clairement, c'est pas du tout le rêve européen, hein, quand ça fait 10 ans que tu nettoies... que tu nettoies les tapis des salles de cinéma en travaillant sur 3 horaires différents, 7 jours sur 7, qu'en fait tu travailles avec les papiers de ton oncle, que du coup en fait tu payes des impôts via ton oncle parce que tu lui rembourses en fait une partie des impôts que lui il doit payer, mais qu'en fait à côté de ça, toi tu n'existes pas, tu n'existes juste pas. T'existes pas dans ton pays d'avant, t'existes pas dans ton pays dans lequel tu vis aujourd'hui, dans lequel tu travailles. Tu cotises indirectement via les autres papiers, mais tu n'existes pas. T'existes pas sur la sécu, t'existes sur aucun droit, t'es complètement invisible. Et à un moment donné, il y a quand même 28% de gens qui votent et qui ont peur des migrants et des gens qui ont une autre couleur de peau.
À un moment donné, ça pose un vrai problème, mais d'éducation, de culture, de documentation, d'information. Et c'est là que on s'est dit, racontons nous-mêmes l'histoire qu'on a envie de raconter et arrêtons de faire la part belle aux médias de masse. Donc on a monté la première émission le 31 mars 2012. C'était il y a longtemps maintenant. 2012. Non, le 31 mars 2012, c'est la naissance de ma fille. Je raconte n'importe quoi. Je m'enflamme complètement. C'est le 21 mars 2013, pardon, le jour du printemps, parce qu'il n'y a pas que les petites fleurs qui naissent avec le printemps. Et du coup, voilà. Et l'idée, en fait, vraiment, c'était ça. C'est de se dire comment on se réapproprie notre propre parole, comment on essaye aussi de décloisonner via l'outil radiophonique, en fait, en proposant des ateliers hebdomadaires ou bi-hebdomadaires parfois, que Sylvain, qui vient d'arriver en plateau et qui fait la technique de Radio Esperanza, a coordonné en partie sur les dernières années, enfin sur, sur les trois dernières années. Comment, en fait, la radio devient juste une excuse aussi pour créer du lien et pour faire se rencontrer des gens qui, finalement, se croisent tous les jours dans un quartier, ne se regardent pas, ne se parlent pas, ne se disent pas bonjour. Mais chacun peut avoir une passion pour la radio ou avoir envie d'apprendre à créer des choses avec d'autres. Et finalement, ils vont se rencontrer autour de la radio et on va réussir, au fur et à mesure, à déconstruire des préjugés ou des stéréotypes qu'on peut avoir. Alors après, je vous en passe des vertes et des pas mûres, dans n'importe quel collectif où on mélange les êtres humains, c'est toujours un peu le bordel. En plus, on était dans une radio relativement très démocratique et très horizontale. Et quand on a envie de faire de la démocratie, ça pose des problèmes parce que plus on a la parole, plus c'est le bordel. Mais c'est ça qui est bon aussi et c'est pour ça qu'on lutte. Mais donc voilà, on va écouter un petit extrait. Enfin, on va... pas un extrait, en fait, il y a un média en France qui est un média alternatif qui s'appelle Sans A, qui est un média participatif en ligne qui œuvre surtout pour donner la parole aux populations les plus précaires et tenter de déconstruire les préjugés, notamment autour de la précarité. Donc ils peuvent travailler avec, je dirais, les personnes relativement exclues. Ça peut aller des migrants à une certaine partie des femmes, aux personnes qui sont sur le handicap, aux personnes qui sortent de prison, aux personnes qui vivent des problématiques de drogue. Voilà. En gros, ils essaient de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Leur slogan, c'est rendre visibles les invisibles. Leur site internet, pour leur filer un coup de main, c'est www.sans-a.org. C'est un reportage de Louise Vigneault qui doit avoir un an maintenant. Ça dure une dizaine de minutes et ça explique un petit peu toute cette problématique de l'image qu'on racole aux migrants et comment récupérer sa voix à travers de l'outil radiophonique. C'est parti.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur, c'est la radio du foyer. Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle monsieur Samba Bachili.
Konaté.
Konaté. Et toi ?
Adama.
Adama ?
C'est moi, appelé Adama. Konaté Adama. Ouais,
monsieur Bachili Lassana.
Et ça fait combien de temps que tu habites au foyer ?
13 ans.
13 ? Toujours ici à Bisson ?
Toujours ici à Bisson. 11 ans maintenant. Mais pourquoi aujourd'hui tu donnes des questions comme quoi que... Ça, c'est pas bonne idée quand même.
Pourquoi ?
Cette religion, c'est quoi ça d'abord ?
Il aura fallu cette image d'un enfant mort sur le sable pour réveiller les consciences sur le sort des migrants qui chaque jour traversent la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Ces nouveaux migrants sont actuellement sous le feu des projecteurs. Pourtant, en France, ils sont des dizaines de milliers à vivre et à travailler sur le territoire. Arrivés il y a 50 ans, 10 ans ou un an, plus habitués à l'ombre qu'à la lumière, ces hommes et ces femmes, majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest, sont regroupés dans les quelques 700 foyers de travailleurs migrants. En 2013, l'association Attention Chantier a mis sur pied une radio participative pour apporter un espace d'expression aux résidents des foyers. Basée dans le foyer Bisson à Paris, REC, la radio des foyers, est aussi mobile. Elle passe de foyer en foyer et diffuse une émission mensuelle sur le web. L'équipe est composée d'un salarié et de bénévoles, essentiellement des résidents de foyers. Ces radioteurs, comme ils se décrivent, entendent apporter une autre parole, d'autres voix, mais aussi un regard différent sur la pratique radiophonique. REC, Radio en chantier, libérer la parole des foyers, un documentaire de Louis Sébi Vigneault.
On est bon, on est parti.
Let's go. 8, 5, 8, 4, 3, jusqu'à 1, c'est parti.
Bonjour et bonjour, vous êtes en plein direct de la radio des foyers.
Radio en chantier, la radio des foyers.
REC, la radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix.
Radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix.
Fin 2011, pour la première fois de ma vie, je rentre dans les foyers de travailleurs migrants via le Festival de cinéma des foyers que portait Attention Chantier depuis quelques années.
Élise, dit la maman de la radio, animatrice.
J'étais impressionnée de voir ces espèces de bâtiments très vétustes, très précaires, dans lesquels vivaient des centaines de personnes, relativement entassées les uns sur les autres, des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes droits que les autres locataires de France. Et j'étais impressionnée de voir ces espèces de prisons enclavées dans la ville, et qui finalement n'avaient pas d'autre existence que celle entre les murs du foyer dans lequel elle vivait. Mon travail à la base, c'est la communication associative. On s'est dit, mais est-ce que monter une radio ne serait pas un moyen de faire vivre leur voix au-delà des murs, des bâtiments, des foyers ?
Antenne libre.
Au départ, moi j'avais la volonté de dire on est surtout sur un projet participatif démocratique. Et la radio, elle est à la fois un prétexte pour faire rentrer les habitants du quartier dans les foyers, pour connaître la condition des habitants des foyers, mais aussi de faire sortir les gars des foyers de leur seule vie au travail ou dans ces établissements. Et donc du coup, c'était par les sujets qu'ils auraient envie de traiter, de pouvoir aller à des concerts, à des expos, à des manifestations, à des conférences, à n'importe quelle chose qu'ils avaient eux envie de porter.
Moi, on m'a pas demandé mon avis.
Moi, on m'a pas encore donné la parole depuis...
Et moi, j'ai dit rien pour l'Algérie. Vous avez ta bouche.
Quand je suis venue de l'Afrique et que j'étais dans un foyer de mineurs, au début, ça me paraissait vraiment compliqué.
Fatou, bénévole et chroniqueuse.
Il faut que les gens comprennent aussi à l'extérieur que le foyer, c'est pas seulement un refuge, mais aussi un moyen de se prendre en main et de préparer son projet, quoi. Tout de suite, j'ai dit je vais faire chroniqueuse. Après, comme on parle d'un peu de diversité dans la radio du foyer, pourquoi pas parler des différents pays et faire connaître chaque pays aux gens qui vivent en France. Et moi, mon rôle, c'est de les expliquer un peu à travers mes chroniques, selon chaque thème donné par l'émission, les spécificités et les différentes cultures qui distinguent le pays.
Votre attention s'il vous plaît, le vol REC 93300 à destination du monde va décoller dans quelques instants. Nous demandons à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. Merci. Bonjour Ndeye.
Bonjour Fatou, comment tu vas?
Ça va bien et vous?
Ça va, merci.
Et moi j'aimerais savoir comment tu peux ressentir dans ta ville au Sénégal le changement?
Dans un premier temps, le changement, je le ressens dans l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bâtiments et d'autoroutes qui se construisent. Et donc, ça contribue au développement de mon pays.
Aoka Radio, Ankmaka.
La radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix.
En général, nos émissions, il y a une heure et demie de production. C'est la restitution des travaux du mois, en fait. Et ensuite, on termine les émissions par un débat sur une thématique qu'on a décidé ensemble.
Sylvain, coordinateur de la radio des foyers.
Moi, j'apprends sur le tas, je suis un gestion, quoi, à la base. Donc, j'ai une rigueur, qui est celle de mon travail. J'ai une exigence. Mais après, tout ce qui est autour du média radio, je l'apprends avec la radio des foyers, en même temps. La grosse différence, c'est qu'on amène n'importe qui à produire un son. Il y a beaucoup de médias, de web médias, où c'est des journalistes qui parlent, où c'est leur regard, c'est très bien, mais on n'entend pas, c'est pas les gens qui font. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il participe, il fait. T'as quelque chose à dire, tu sais pas t'exprimer, mais dis-le. T'as du mal à parler en français, parle en arabe, en bambara, en wolof. Il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, on a les moyens de traduire, on a les moyens de se comprendre. Et donc la radio des foyers, c'est aussi ça, c'est aussi l'expérimentation des langues, c'est aussi... Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, avec Seydou, on a travaillé sur une chanson de Diabidoua, et l'idée, c'était de traduire la chanson au plateau, en direct.
Moi, je vous appelle ma famille, mes amis. Ici, c'est trop loin. Les hommes, la famille.
C'est le genre de truc que j'adore, quoi. Parce que justement, qui un jour me permet de comprendre une chanson en bambara ? De comprendre les paroles, de comprendre ce que l'artiste veut dire, le griot veut dire, avec toute l'histoire, la tradition du griot qu'il y a derrière ? Personne. J'ai pas les codes. Bah là, la radio des foyers, on ne te permet pas d'avoir les codes, mais on te permet de comprendre les paroles.
Des gens très hauts, des idéaux, des solutions qui viennent d'en bas.
Politique, société, culture.
Politique, société, culture, des hauts, des bas, on confronte les idées.
C'est le débat sur la radio des foyers, Radio en sentier.
Moi je m'appelle Boubou, donc pour le droit de vote, moi je suis pas pour, parce que je vote dans mon pays d'origine au Sénégal, donc je vois pas l'intérêt de voter ici en France. Bah, ceux qui sont français, qui sont d'origine étrangère, ils peuvent voter, mais ceux qui ont le carte séjour, moi je pense qu'on doit voter dans leur pays d'origine, et c'est mieux que... Moi je vois ça comme ça, quoi.
En fait, on a eu une discussion carrément entre migrants sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. À l'intérieur de cette même émission, on était vraiment sur une forme d'éducation populaire partagée, où leurs idées avançaient au fur et à mesure que les gens discutaient sur le plateau. Moi, pour moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai eu de cette radio des foyers. C'était une émission qui était ouverte. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient venues dans le public. Je me souviens d'une dizaine de personnes qui bossaient déjà dans des radios, qui sont venues nous voir à la fin et qui nous ont dit « c'est incroyable, j'ai jamais entendu cette parole-là, ni à la radio, ni à la télé, ni dans les papiers. C'est formidable, continue, on va faire des choses ensemble. »
Salam alaikum, c'est Radio Talofoyi.
Bonjour, vous êtes sur la Radio des Foyers.
Ce qui m'a intéressé à la Radio des Foyers, c'est qu'elle portait la voix des sans-voix et le fait qu'elles étaient intégrées dans les foyers.
Chantal, responsable des bénévoles et animatrice.
Moi, les foyers, je les ai connus à l'âge de 15 ans. J'ai grandi à la rue, donc j'avais pas d'autre choix que d'aller manger dans les foyers, c'est moins cher. Et puis, on trouve énormément de gens très humaines qui pouvaient t'offrir à manger, même si tu n'en avais pas. Ce que je peux reprocher un peu aux autres radios, c'est justement que j'ai l'impression que des fois, le vocabulaire, il ne nous appartient plus. Il est divisé. Alors, il y a le clan untel, le clan untel, le clan untel. Alors que là, avec la radio des foyers, c'est fluide pour tout le monde. Et puis, il y a aussi les ateliers qu'on fait avant l'émission. C'est quelque chose de très particulier parce qu'on partage là nos idées. Personne ne nous impose. On a la possibilité de dire, si on le faisait comme ça.
La boîte aux lettres sonores de la Mousaïa.
Ah, la boîte aux lettres sonores de Mousaïa.
Partons à la rencontre, les gens qui sont ici.
Qu'est-ce qu'un souvenir agréable ?
Parlez-nous d'un projet ou d'un rêve.
Qu'est-ce qui vous rend heureux à Mousaïa ?
La boîte aux lettres sonore.
S'il vous plaît, vous pouvez nous parler d'un souvenir agréable ?
Mon grand-oncle, l'oncle de mon père, qui m'avait offert pour la première fois des bonbons. Des bonbons, ça m'a marqué. Une fois, quand j'étais repassé en fait chez lui, il avait du sucre. Et comme j'avais eu le goût de bonbon, j'étais obligé de lui dire, puisqu'on nous disait toujours « tu ne voleras point », lui dire « oui, mais comme chez nous, on dit grand-père ». J'ai dit « mais grand-père, est-ce que je peux avoir du sucre ?» Il a dit « tu en prends ce que j'ai dit ». Et j'en ai profité pour vous remplir la poche. C'est ça, c'est celui qui m'est resté.
Souvenir d'enfance.
Souvenir d'enfance, c'est vrai.
La boîte aux lettres sonore.
Ce n'est pas facile non plus pour Attention Chantier et la radio des foyers. C'est qu'en ce moment, avec les bailleurs, ça se passe hyper mal. Ils veulent enlever les salles de prière, ils veulent enlever les salles de réunion, soi-disant pour ne pas en faire des salles de prière, enlever les cantines. En fait, on veut tout leur enlever. quand un foyer dit, nous envoie un message et nous dit, les gestionnaires sont arrivés, ils viennent de repartir ou ils vont venir dans une heure, c'est à nous d'être là. C'est à nous d'être là. Ça s'appelle quand même la radio des foyers, je veux dire, où on s'est trompé de foyer. Parce qu'on se dit différent des autres médias, on risque de laisser les autres médias qui, eux, sont pris à la gorge par des ceci, par des cela, par des prises de, économiques, et qui vont se dire, on ne va pas aller plus loin. On a compris que vous étiez en souffrance, mais nous, on n'ira pas plus loin. Et paraît-il que la radio des foyers a cette possibilité de le faire. Allons-y.
Dans les couloirs.
Il y a la musique américaine, il y a la musique africaine, il y a la musique française.
À tout le monde. Voilà. C'est un griot traditionnel, en fait.
La boucle des sœurs, celle qui était... Tu connais?
J'aime bien danser, moi.
Rec, dans les couloirs du foyer.
Il y a un an et demi, il y a une association dans le 18e qui organise une rencontre entre associatifs, médias, militants, qui s'appelle en gros « Comment réconcilier les quartiers populaires avec les médias ?» Je me retrouve à débattre avec le directeur des programmes de TF1. Grosse base. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend de différent à la radio des foyers, à quoi elle sert? Elle sert justement à contrer un petit peu l'image qu'on donne des foyers et de l'Africain à TF1. Le monsieur se défendait en disant que oui, on parle des foyers, regardez, on a fait tel ou tel reportage dans le JT il y a 2 ans, il y a 5 ans. Ah bah oui, on a fait un reportage quand il y avait Tiken Jaffa-Coli qui est venu. Et puis on en a fait un autre quand les cuisinières, elles faisaient un super repas avec les épices. Non mais l'Afrique de France, c'est pas que l'Afrique, enfin les Africains en France, c'est juste des personnes en fait. C'est pas que des gens qui utilisent des épices ou qui écoutent Tiken Jaffa-Coli. Et donc la radio, elle sert à raconter une autre partie de l'histoire que celle que les médias traditionnels et les médias de masse, ils veulent bien raconter au peuple français. Et donc, du coup, elle sert à montrer que, en fait, d'abord, on est une personne, quoi. Et comme on est une personne, on a le droit d'avoir un avis sur l'actualité locale, culturelle, économique, sociale, géopolitique du pays dans lequel on réside, en fait. La radio, elle sert à montrer une autre partie de l'histoire, elle sert à montrer d'autres voies, elle sert à démontrer aussi qu'on peut faire des choses ensemble, hein, qu'il n'y a pas les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, c'est complètement absurde, et c'est ce qu'on essaye. Elle sert à montrer qu'on peut faire des belles choses ensemble, et que le migrant, quand il arrive... il n'utilise pas du tout les droits sociaux et qu'il n'utilise pas la CAF, parce qu'en fait, un sans-papier, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec les papiers de son cousin, d'accord? Il a 3 boulots, il travaille 50 heures par semaine. À la fin, en fait, il a travaillé, mais il n'a pas de droits, puisque ce n'est pas ses papiers, c'est ceux de son cousin, donc il paye quand même les impôts à son cousin, parce que son cousin, il va en payer des impôts, et derrière, il n'a pas la sécurité sociale, et donc en fait, il n'existe pas. Ils sont juste invisibles. Et la radio, elle sert à rendre visible, avec la voix.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et aux bienfaits qui en résultent.
Adamaden bebese kana nyanaje jakulu kononala. Anika sewa akonofon bela.
Bonjour et bonjour, vous êtes en plein direct de la radio des foyers.
Radio en chantier, la radio des foyers.
Rec, la radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix.
Radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix.
Rec, radio en chantier, libérer la parole des foyers, un documentaire signé Louise Sébi Vigneault. Merci à Fatou Keïta, Chantal Sagna, Élise Aubry et Sylvain Bernard.
Et voilà, c'était donc un reportage issu donc de la radio des foyers, n'est-ce pas?
Tout à fait, de la radio des foyers qui est quand même une chouette aventure. Alors c'est un peu en point mort en ce moment. Sylvain qui est à l'antenne, elle nous a quittés, je sais plus, il y a un an. Moi j'ai pris un peu de temps aussi. Et puis voilà, c'est les aventures humaines, c'est toujours le bordel, quoi. Hein. C'est voilà.
Mais en tout cas, c'est, enfin, moi, j'ai participé à ce projet pendant 2 ans et demi. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est qu'à partir du moment où on commence à discuter autour d'un média, au-delà du simple fait de s'exprimer et d'utiliser un média, il y a un regard sur les autres médias en fait, qui apparaît. Et les gens deviennent beaucoup plus critiques, par exemple. Enfin, critique, c'est un mot... mais les gens ont un autre regard par rapport à l'info qui leur est balancée. Ils acquièrent ce regard et c'est assez chouette. Et par exemple, moi, je ne serais jamais rentré dans un foyer si je n'avais pas participé à la radio des foyers ou à Attention Chantier. Et au-delà juste des gens, des hommes que je voyais dans la rue, ils ne cultivaient pas, mais ils faisaient griller le maïs dans la rue, ils vendaient des clopes à l'unité. En fait, avant de participer au projet, je passais dans la rue, je voyais qu'il y avait des Africains qui faisaient ça, je me dis bon, ça ne me concerne pas et tout. Et en fait, avec le temps, avec les rencontres et avec l'investissement, j'ai rencontré vraiment des gens,
Des gens, quoi.
C'est ça, remettre en fait. Remettre de l'humain, quoi. Revenir à l'humain et plus... aller à la rencontre de l'autre, finalement.
Je suis d'accord avec Fox. Moi, si je n'avais pas travaillé dans les centres Croix-Rouge, je pense que je n'aurais pas eu de contact avec les réfugiés. Et j'ai eu beaucoup de gens qui étaient autour de moi, des amis de la famille, qui me disaient « Ouais, mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment, j'ai peur. Je ne sais pas comment aborder. Je sais pas, c'est un peu comme les SDF, tu vois. Si tu ne bosses pas là-dedans, c'est difficile d'aborder. » Et je pense que là, il y a un vrai travail de décloisonnement à faire pour vraiment intégrer toute personne qui arrive ici.
Avec Radio Roulotte, c'était pareil. Hein. Moi, je ne suis jamais rentrée dans un centre Croix-Rouge pour réfugiés migrants et les jeunes non plus. Et c'est vrai, on rentre là, moi, j'avais l'impression d'être une intruse. Alors, en plus, avec avec une roulotte verte, jaune,
de toutes les couleurs,
et avec des chevaux de trait. Et on rentre, en fait, à Belgrade, on rentre dans ce centre Croix-Rouge, donc il y a une espèce de portique où là, on nous dit donc pas de photos, sauf si les résidents sont d'accord. Et puis on nous dit ouais, allez tout droit. Et moi, j'ai eu une sale impression, en fait. J'étais pas bien parce qu'on était déjà, on venait de partir, donc c'était vraiment
la
toute première. Donc on est parti mardi midi, on est arrivé là, il était midi 30 quoi. Et en fait, c'est une allée avec des hangars des deux côtés. Alors je suis désolée pour l'image, mais moi ça m'a fait penser à des camps quoi.
Ce sont des camps. Hein.
Oui, mais des camps d'un autre temps, tu vois, qu'on n'a plus envie spécialement de voir. Et moi, ça m'a touché énormément. Surtout, on est passé devant un qui était ouvert. Et en fait, dans ce hangar, il y avait des tentes.
Ouais.
Et alors là, on se dit, oh, donc ces gens vivent dans des hangars, dans des tentes. Et puis plus loin, après la série de hangars, en fait, il y a des maisons, il y a des appartements. Et là, je vais vous avouer que j'ai respiré en me disant, ça va, il y a quand même... des conditions acceptables de vie, quoi. Et ils étaient tous à leur fenêtre, ils ont fait des grands signes et puis ils sont tous venus voir la roulotte. Mais au début, j'ai eu...
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des places temporaires. Donc, dans tous les centres de réfugiés belges, tu as des places temporaires avant d'être nommé, enfin, d'être assigné à une place plus fixe où il va y avoir un vrai lit avec une vraie chambre, etc. Et donc, ces places temporaires, ça s'appelle les campos. Et donc, maintenant, ils sont en train de virer tous les campos parce qu'ils sont en train de vider les camps. Ils ont supprimé un nombre de places assez impressionnantes et viré beaucoup de gens, donc, du coup, qui travaillent dans l'humanitaire de manière assez. Pas très cool. Dont moi, d'ailleurs. Mais ça, c'est le gouvernement hein, qui veut ça. C'est pas les organismes en eux-mêmes. Et donc, les campos, c'est assez hard. Moi, j'ai quelqu'un qui est devenu un ami qui est pakistanais, qui donc était passé dans le centre chez nous et qui est allé à Belgrade, justement. Et donc, il m'a envoyé une photo le jour où il est arrivé en disant « Regarde où je suis tombée ». Donc, il y avait cette photo de tente dans des hangars. Il m'a dit « Regarde, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas rester là, tu te rends compte où on nous met ?» On est 4 par tente. Et encore, il y a des endroits où il n'y a pas de tente. Ce sont des espèces de grandes barrières nadar avec des lits superposés dans des espèces de halls de sport avec un bruit horrible, des lumières métalliques. Enfin, c'est des choses temporaires. Voilà. En attendant d'eux, ils ont ouvert des places temporaires.
Et moi, je voudrais juste revenir sur ce point-là parce que Il y a beaucoup de, dans les réflexions et dans les préjugés qu'il peut y avoir sur les questions des arrivées de migrants et de la manière avec laquelle ils sont pris en compte et qui nous prendraient tout ceci et tout cela. Machin. Il y a aussi quelque chose qui dit oui, mais chez nous, il y a aussi déjà beaucoup de misère et réglons déjà la misère chez nous. Et... non, mais. Et c'est vrai.
C'est
drôle. Non, mais. Attention, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que des gens qui dorment dans des tentes à l'arrache, n'importe comment, sans accès aux droits. Alors, il y a la question en plus migratoire avec tout le parcours que c'est, les violences dans les pays, qu'elles soient économiques, humaines, physiques, mentales, tout ce qu'on veut. Il y a une vraie violence dans nos pays aujourd'hui. Elle est quotidienne. Et la précarité, c'est... Enfin, des gens... Le 115, quand on appelle le 115, nous en France, c'est le 115 à Paris. Quand on appelle le 115, qu'on soit migrant, pas migrant, c'est un truc de malade, quoi. Enfin,
c'est quoi le 115
gens... C'est le 115, en fait, c'est le numéro d'appel d'urgence.
Donc 112 chez nous. Enfin, le numéro européen, 112.
Le centre d'hébergement d'urgence, quoi. Okay. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler des camps de personnes roms. Parler du nombre de SDF qu'il y a de plus en plus en France. En Île-de-France, il y a plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants et qu'on pourrait abriter des gens et qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc, ce qui est intéressant et ce qu'on verra demain, justement, dans nos émissions, ce sera d'essayer de montrer un peu, justement, ce qui s'organise. Donc, il y avait, tu parlais du centre Croix-Rouge dans lequel tu étais, on a parlé de Belgrade tout à l'heure, on parlait de la radio des foyers, on parlait de différentes solidarités qui se créent en Belgique et ailleurs. Et donc demain, justement, parce que dans le Village des Possibles, cette année, il y a d'autant plus de collectifs qui travaillent autour de ces sujets-là et qui agissent au quotidien. Donc on en reparlera demain d'une manière plus... peut-être plus...
Un peu plus trempée.
Plus trempée. Concrète. Et plus dans le faire autrement. Comment vraiment, au quotidien, on s'accompagne ensemble et on arrive à essayer de trouver des solutions. Alors il y a les solutions de faire autrement au quotidien. Et puis il y a tout le plaidoyer qui est important à côté pour faire changer les lois et tout le côté documentation, éducation pour faire changer les regards. Mais en tout cas, n'oublions pas que la question du droit à un toit et du droit à la dignité et du droit à bouffer, elle est... pour plein de gens partout dans le monde, aussi dans nos pays, aussi quand on est blanc, aussi quand on est noir, aussi quand on est marron. Enfin, elle a pas de couleur, cette précarité. Et c'est important qu'on le rappelle, et surtout de ne pas être dans une opposition des problèmes des gens et des précarités des gens, et justement de les rassembler, de les faire converger pour être plus forts, quoi.
Moi, je crois qu'il y a différentes précarités et que la solidarité... où la solitude s'organise malgré certains, malgré soi aussi. C'est un peu abstrait ce que je viens de dire. je dis beaucoup ça. Non, moi je voulais juste dire que, en fait, aux côtés des habitants des foyers que j'ai rencontrés, j'ai découvert qu'en fait, la société dans laquelle on vit, en tout cas en France, dans les grandes villes, à Paris par exemple, ces sociétés-là ne peuvent pas tenir sans ces gens qui travaillent à des postes que nous, en tant que personnes instruites, par exemple, on ne veut pas travailler. Par exemple, est-ce que en région parisienne, quel est le pourcentage de...
Dans les foyers à travers migrants, il y a beaucoup de gens très instruits.
Oui, oui, non, mais je dis pas qu'il y a que des gens qui sont éboueurs ou qui nettoient les salles de cinéma.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les gens qui sont éboueurs, il y a des gens très instruits.
Oui, d'accord.
C'est ça que je veux dire.
Oui, attention. Bah, alors, je disais, alors, instruit, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le travail... auxquels ils peuvent prétendre dans notre société.
Ouais, clairement.
Voilà, c'est peut-être mieux de dire ça comme ça.
La formation, d'une certaine manière.
Et du coup, dans les foyers, moi j'ai rencontré par exemple le tonton de la radio des foyers, Wagi, ouais. Qui lui, aujourd'hui, il est chef de chantier. C'est une grosse responsabilité pour lui, c'est beaucoup de travail. Il est aussi délégué du foyer, c'est aussi beaucoup de responsabilité vis-à-vis des habitants du foyer. Quelque part, il se tue à la tâche, il est super fatigué, il craque souvent, mais ça a un sens de faire ça. Et à côté, il y a notre pote, il y a les copains qui sont peut-être éboueurs, qui sont peut-être nettoyeurs de salles de cinéma, comme tu en parlais. Mais ces gens-là, si on les a pas, s'ils travaillent pas dans notre société, qui va ramasser les ordures ?
Mais quand même,
qui va garder les enfants
de...
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est simplement qu'il y a des places de travail qui sont libres, quelque part, et que nous, on ne veut pas prendre. Et donc, je suis convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est pas parce que tu arrives d'un autre pays c'est pas parce que tu arrives d'un autre pays que tu vas prendre...
Que tu vas piquer
le travail d'un autre. En fait, on est tous complémentaires. C'est ça que je veux dire.
Je pense que c'est même pas ça. Là. C'est l'idée de dire, mais chez nous, on a des SDF et pourquoi est-ce qu'on aiderait les migrants alors que chez nous, on a déjà des problèmes. C'est la peur. C'est juste la peur de la différence et de se dire, ok, le SDF, ça pourrait être moi, en fait. Alors que le migrant, il est d'une autre culture, je le connais pas. Et donc, il me fait peur. Et donc, pourquoi ne pas aider nous-mêmes? Et c'est du racisme de bas étage, quoi. C'est tout.
C'est aider ceux qui me ressemblent et exclure l'autre, en fait.
Et c'est oublier que l'humain est multiple et humain, quoi.
Et voilà. Du coup, on avait une petite série de préjugés. On voulait faire une espèce de vérité contre vérité sur tout ce qui se dit un petit peu justement autour de ces questions. Mais je me dis qu'on va le garder pour demain. On a des émissions demain et on Absolument. Va traiter de ces sujets-là et avec les personnes justement dont on parle et tout ça. Donc,
et on en parlera tout particulièrement vers 17h30 dans Possible.
Possible. Et alors par contre, attention là, à ma droite, j'ai quelqu'un qui s'appelle Betty. Betty.
Oui,
Lisa. Est-ce que... je sais pas, nous on discute, on est préparé un peu notre émission, tout ça. Toi t'arrives et c'est une de tes premières émissions de radio ici, en tout cas, à Esperanza, sur un sujet qui est complexe et puis qui touche à plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses que t'as envie de dire, que t'as notées? Je t'ai vu noter des petites choses.
Oui, comme on les dirait, moi je suis ici en tant que mission d'observation. Et donc, nous, on a lancé, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, on a lancé un programme un peu similaire qui se fait toujours avec le Festival Amani. Festival Amani, c'est un festival international aussi des musiques, mais qui se passe en République démocratique du Congo chaque mois de février. Et on a lancé un projet radio Amani FM pour le festival.
Pourquoi une radio sur le festival, vous, c'était important?
Oui, communiquer les messages de paix, mais aussi tout ce qui se passe dans le festival, un peu comme ça s'est fait ici à Esperanza. Et c'est dans ces cadres que je suis là un peu pour apprendre de Esperanza, parce que ça fait 15 ans qu'Esperanza existe. Et nous, on est à la 3e édition déjà. L'année prochaine, ça sera la 4e. Oui, le thème, il est intéressant. Et les approches sont un peu, c'est vrai, les systèmes de migrants, les systèmes des réfugiés. Mais chez nous, c'est plus un peu les déplacés des guerres, parce que c'est à l'interne. Et comme vous le savez, le Congo traverse depuis plus de 20 ans une période de crise, de guerre un peu généralisée. Et ce qu'on observe, un mouvement de population qui quitte les villages et parfois ils se déplacent vers la ville et ils sont cantonnés dans des camps de déplacés. Et là, c'est pas une vie facile, c'est vrai. Et peut-être dans le cadre de cette émission, je voudrais un peu partager mon expérience un peu avec la rencontre de ces personnes, les déplacés de guerre, parce que avant tout, je suis journaliste et il m'arrive deux fois d'aller dans les camps de déplacés pour faire des reportages. Et c'est vrai, en général, ce sont des personnes qui sont un peu misérables. En général, parce que les gens qui sont cantonnés dans les camps, parce qu'on peut être déplacé de guerre, mais on a des familles dans la ville. Alors, au lieu d'être interné dans des camps de déplacés, on va abriter par exemple chez son oncle, chez un membre de la famille, et là on ne vit pas les mêmes réalités. Et dans les camps de déplacés, bon, moi peut-être avec mon ami Kelvin, il peut toucher un autre angle, mais moi ce qui m'a beaucoup touchée est que c'est vrai, plusieurs médias internationaux, ils venaient au Congo pour faire des reportages, rencontrer les déplacés des guerres, pour raconter cette histoire malheureuse du déplacé. Mais moi, j'y étais pour voir un autre angle, c'est que voir un angle de l'espoir. C'est que si bien que c'est vrai que les camps de déplacés, c'est un lieu où on ressent vraiment de la misère et on a beaucoup de pitié pour ces personnes qui vivent là-bas. Mais quand même, eux, ils s'organisent pour se recréer un peu de la joie et essayer de se dépasser des affres de la guerre. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé de leurs histoires, qui m'ont partagé un peu de ce qu'a été la réalité, là où ils étaient, comment ils ont fui, qu'est-ce qu'ils endurent dans les camps. Et parfois, ils m'ont parlé d'un truc, espace des amis des enfants. Espace d'amis des enfants, c'est un peu un espace où c'est organisé par des ONG. Et il y a des jeux de sport qui s'organisent là-dedans. Et le but, c'est essayer d'aider cette personne déplacée à changer d'idée, à se dépasser des traumatismes. Et tout. Et le témoignage qui a été plus frappant, c'était à partir de ces jeux, de ces espaces, des jeux d'enfants, amis des enfants plutôt, on a essayé, on est arrivé à réconcilier certaines familles qui sont des appartenances tribales différentes et qui se battaient par exemple dans leur région d'où ils venaient. Mais quand ils sont là, il y a l'un qui m'a dit. C'est vrai, on a été dans notre milieu, on s'est querellé, je ne pouvais pas supporter de voir telle personne. Mais ici, il y a une autre réalité qui nous unit. Est-ce que nous souffrons ensemble et ensemble, c'est ensemble que nous pouvons arriver à nous créer une joie et à surmonter toutes les souffrances que nous avons. Quand nous pouvons penser à tout ce que nous avions au village et tout. Et donc, il n'y a plus de raison de se battre. Parce qu'en général, les guerres au Congo, c'est lié souvent à des tribus. Telle tribu et telle tribu ne s'entendent pas. Alors, un matin, on s'élève, boum, ça éclate. Bon, un déplacé, c'est...
Du coup, ce que tu disais là juste avant, c'est que des personnes qui venaient donc de tribus différentes et qui, dont les peuples en gros se sont entretués sur les scènes de guerre via un espace de rencontre et de, à un moment donné où ils font quelque chose ensemble qui passait par le jeu des rencontres des enfants, tu disais, comment ça s'appelait le jeu
Espace ami d'enfants
et par ces espaces qu'ils créaient finalement ils faisaient quelque chose avec ces autres personnes, du coup ça déconstruisait quelque chose et ça rassemblait plutôt que ça ne...
Ouais, ouais.
C'est ça, c'est vachement intéressant.
J'ai vécu la même chose dans le centre Croix-Rouge, où il y a aussi beaucoup d'activités. Il y avait des peuples qui étaient un peu contraires, on va dire.
Bien sûr.
Les Palestiniens avec d'autres pays, ou les Afghans, les Iraniens. Enfin, il y avait des gens qui vraiment ne pouvaient pas se piffer au départ. Ouais. On les mettait dans les chambres par ordre d'arrivée. On ne faisait pas des ghettos d'Afghans d'un côté. Voilà. Et il y avait des dynamiques autour d'activités qui étaient exactement comme tu dis, Betty, vraiment très, très positives et très jolies. Des ateliers philo, des chants, des bricolages. Un peu de tout, et c'était vraiment très très émouvant à voir des gens qui parlaient pas du tout la même langue et qui parfois même n'avaient aucune langue commune, même pas l'anglais, et il y avait des regards et des sourires, des choses vraiment, ça donne des frissons
très fort. Ouais. Et dans le même sens de faire voir un peu cette gaieté, cette joie que ces personnes ont malgré la situation dans laquelle elles vivent, nous avons pu réaliser des petits projets artistiques dans les camps. Premièrement, dans le cadre du Festival Amani, il y a l'hymne du Festival Amani, c'est une chanson.
Elle est titrée. Ah, c'est dommage, on l'a pas.
Mutuachena Amani.
On l'a pas dans la bécane.
Mutuachena Amani, donc ça veut dire laissez-nous en paix. Alors, c'est moi qui ai réalisé le clip. Dans les scripts, j'ai préféré que ça soit comme si ce sont les personnes qui sont dans les camps qui réclament les laissez-nous en paix, quoi. Nous avons tourné le clip en grande partie dans les camps. Et dans des centres qui récupèrent les enfants peut-être qui ont été abandonnés à cause des guerres. Alors il y a tous les déplacés qui dansent dans la vidéo et c'est vraiment très gai et c'est tellement joyeux. Et après nous y avons associé une autre campagne, Happy from Goma. Nous avons fait la reprise de la chanson de Pharrell Williams qui a aussi fait tourner beaucoup dans plusieurs villes. Et à travers ça, on a essayé un peu de montrer qu'à part, parce que tous les médias internationaux voient l'Est de la République du Congo ou le Goma comme juste un site où il y a des camps déplacés. Alors on a montré qu'à part cet aspect-là, il y a quand même des jeunes qui dansent, il y a des musiciens, il y a des peintres, il y a une vie, il y a des beaux bâtiments, il y a une vie qui est là. Et les deux projets quand même ont relevé un peu, ont changé un peu la tendance sur ce qui se faisait voir sur la ville de Goma. Et je dirais actuellement la vidéo Happy from Goma sur YouTube a environ 64 ou 68 000 vues. Et il a suscité vraiment beaucoup de gens qui sont venus. Et j'ai même eu des témoignages des personnes qui avaient peur de venir à Goma. Parce que quand on parle de Goma, c'est la guerre. Mais ils ont eu le courage de venir à Goma parce qu'ils ont vu Happy from Goma. Et c'est quelque chose qui... Donc c'est juste pour dire que quand il y a des gens qui se déplacent, quand il y a des gens qui se réfugient quelque part, c'est pas parce que... non, c'est pas nécessairement pour la première raison peut-être de créer un trouble. C'est peut-être parce que... c'est une condition dans laquelle elles sont et peut-être elles peuvent apporter encore quelque chose de plus à la ville ou à la nation qui les accueille.
YouTube, Happy from Goma. Et d'ici dimanche soir, il y aura 100 000 vues.
Merci.
Et je vous propose que justement on continue de parler de tout ça demain dans la journée qui nous attend, ce vendredi donc avec l'ouverture du festival vendredi 5 août, dans le débat un petit peu finalement parce que c'est très lié, le débat qu'animera Déborah, à quelle heure?
Alors il y a le premier débat qui n'a rien à voir, là ce sera à 15h30 je crois.
Non mais l'autre, celui qui nous intéresse pour ce soir.
Ouais,
quoi.
Bon, d'accord, ouais, ok. C'est à 19h30. Fatima Ben Omar, donc elle sera en débat dans le village possible, dans l'espace CNCD, demain après-midi en fait.
Et nous on se retrouve avec Camille à 17h30.
17h30, tout à fait, comme l'an dernier, pour une heure.
Exactement, on accueillera, bah, peut-être que Betty fera l'émission avec nous et Calvin aussi.
Et Lisette, je voudrais un peu préciser, et il y a le samedi, il y aura une émission qui sera animée par moi et avec Aurore. Et cela, c'est tourné surtout pour le point de vue de le statut de la femme par rapport à tous ces mouvements de déplacement et la guerre et tout dans l'est de la RDC, voir le statut de la femme. De la femme congolaise dans tout ce bordel qui se passe dans l'est du pays.
Lise acquiesce à grands coups de tête.
C'est samedi, quelle heure? Quelle heure, Betty, est-ce que
à 13h30.
À 13h30, samedi.
Du moins que...
Demain, on reçoit des collectifs et des associations sur la thématique. Merci, Carolina. Tu restes avec nous aussi un peu dans le week-end. Tu repasseras par la radio, donc on aura peut-être l'occasion de réentendre ta voix. Merci, Calvin. À demain.
Merci, Lise.
Debs?
Bah ouais, normalement, demain, ouais.
Betty, à tout de suite, on va aller boire une petite bière.
À tout.
Et nous pas, on peut pas,
hein, nous, si, on peut pas. Si, si, mais vous allez d'abord faire le cut de l'émission, non?
On bah, déconne. Peut-être, on ira boire un verre plus tard.
Ouais, ben bah, voilà, on vous fait le podcast, et très puis, chers auditeurs.
À demain quand même.
Merci.
Ciao, ciao.
Profitez bien du festival.
Bonne soirée.